Merci Samuel et Élise de nous avoir conduits dans la louange. Tu nous as parlé, Samuel, de la communication que nous avons avec notre Dieu au travers de la louange, de la prière. Et tu nous as dit aussi que Dieu communiquait avec nous au travers de sa parole et de son esprit. Et j'ai voulu faire appel ce matin à un expert en communication, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 4, chapitre 4, évangile de Jean. C'est ce passage avec la femme samaritaine. Je lis du verset 5 au verset 26. Donc Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits ?» et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Laurent, notre pasteur, dans un de ses clips vidéo sur YouTube, nous a parlé de la communication. Comment faire passer un message? Comment être convaincant? Et j'ai voulu reprendre ce thème de la communication avec une touche plus personnelle. Vous savez que dans les entreprises en particulier, donc c'est la mode, dans les bureaux, on fait des stages sur la communication avec brainstorming. Certains expriment sa façon de voir, de faire les choses et les compare avec ses collègues. Le spécialiste dit alors quels sont les écueils à éviter et le comment faire pour établir un échange constructif. Comment nous, chrétiens, nous communiquons entre nous et comment communiquer l'Évangile à nos concitoyens dans une société sécularisée et saturée d'informations. Pour communiquer, il faut trois éléments. Un émetteur, un vecteur et un récepteur. L'émetteur, lors d'un culte, c'est le prédicateur ou la personne qui apporte la parole et qui parle au micro. Mais ça peut être nous tous aussi dans un témoignage. Il transmet un message, c'est-à-dire le vecteur, une parole aux auditeurs ou à celui à qui il parle. Ce message n'est pas forcément verbal, il peut être l'expression de son comportement, de son regard, de nos réactions. Le récepteur, c'est l'assemblée, c'est vous tous ici ce matin. Ou encore la personne qui vous écoute. Et selon la disposition des uns et des autres, le message ne sera pas reçu de la même manière selon les uns et les autres. Et c'est à cela que nous devons veiller, nous chrétiens en particulier, car le résultat peut être à l'opposé de notre attente et être un contre-témoignage. Il y a ce que je pense, moi, basé sur mon vécu, mon ressenti, mes conceptions, mes valeurs, ce que j'ai envie de transmettre, mais ce n'est pas toujours la réalité que je vis. Je peux être maladroit avec des mots qui ne sont pas en adéquation avec ma pensée. Je regrette souvent la manière dont j'ai exprimé les choses, voir ce que j'ai dit et qui ne reflète pas toujours ce que j'ai voulu dire. Voir ce que j'ai dit et qui est totalement différent de ce que ma pensée a voulu exprimer. Il y a ce que la personne et le groupe entend avec ses dispositions, son caractère, son ressenti, et qui n'est pas forcément la même chose selon la personne. Il y a ce que j'en fais au-dedans de moi, comment j'interprète ce qui a été dit, ce que j'ai pu comprendre, puis il y a la personne qui répond et qui ne reflète pas forcément ce qu'elle pense. Et la boucle est bouclée. Entre ce que j'ai pu exprimer au départ et ce que la personne répond, il peut y avoir un décalage qui explique bien des quiproquos et des conflits. Un proverbe dit bien « il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler ». Pour notre anniversaire de mariage à la fin juin, nous sommes allés dans un restaurant que nous avions réservé du côté de Bourgoin-Jallieu. À notre arrivée, le restaurant était sur le point de fermer et on ne nous attendait pas. Un malentendu entre la personne qui a pris l'appel et le chef à qui n'avait pas transmis cette réservation. Et cela nous a mis dans l'embarras. Problème de communication. Il n'y avait pas eu d'autres réservations, c'était un tout petit restaurant, et donc il s'apprêtait à fermer. Mais on nous a quand même servi, puisqu'on était là, et nous avons vu sur une pancarte une pensée que j'ai recueillie, que j'ai trouvée très intéressante. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront tes paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront tes actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il deviendra ton destin. Combien de gens s'arrêtent à ce qui a été dit pour juger du caractère de la personne qui a parlé ? C'est vrai que le caractère dicte souvent ce qu'est la personne. Les circonstances que souvent la personne qui est en face ignore induisent souvent des mots mal prononcés, inadéquats, des comportements inhabituels. On entend souvent d'une personne qu'elle dit « Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Il n'est pas comme ça d'habitude ». On a pu en effet sortir de ses gonds. Communiquer, ça s'apprend et s'exerce sur le long terme. J'ai remarqué, je peux le dire puisqu'il n'est pas là ce matin, que Laurent, quand on lui pose une question, ne répond pas de suite. Il cherche ses mots pour ne pas parler trop vite, ni se tromper dans ce qu'il répond. Il ne répond pas du tac au tac. On peut appeler ça de la sagesse, de la réflexion. Il observe sans doute cette parole de l'Écriture dans Proverbe 15-28 qui dit « Le cœur du juste médite pour répondre. » Laurent dit « Si vous voulez qu'on vous écoute, surprenez. » Et l'on peut surprendre en ne réagissant pas comme tout le monde. Sachez communiquer. Ne parlez pas tout le temps. Écoutez. Intéressez-vous à l'autre. Soyez sûr de ce que vous dites, en particulier en matière de religion et de foi. Interpellez dans le même sens que l'auditeur. Et souvent, Jésus faisait comme ça. Il reposait une question derrière. Par exemple, si l'on vous dit « Les religions ont fait bien plus de mal que de bien. Dites que vous êtes d'accord. » Mais apportez la nuance. Vous dites bien en parlant de religion que c'est vrai. Les religions sont ce que les hommes ont perverti du message. Mais que dit réellement l'Écriture? Ou encore si on vous dit Jésus était un révolutionnaire, un communiste. Vous avez raison, il a révolutionné le monde par son message. Et il a montré ce qu'était le véritable partage et l'amour du prochain. Ou encore, les chrétiens sont des hypocrites. C'est vrai, pour tous ceux qui disent et qui ne font pas. C'était justement le reproche que faisait Jésus aux religieux de son époque. Donc, étonnez quand vous répondez. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, apporter du fruit parce que, outre son charisme, il a compris l'art de la communication. Avant lui, les missionnaires occidentaux allaient évangéliser les païens pour leur apporter leur culture, leurs coutumes, leur savoir-faire, leur science, et ce, en tenue occidentale, qui les distinguait bien des Chinois. Résultat, on savait que c'était des étrangers qui venaient là pour changer leur culture façonnée sur plusieurs millénaires. Ces missionnaires n'arrivaient pas à entrer en contact avec les autochtones, ni n'arrivaient à leur parler. D'emblée, Hudson Taylor a compris qu'il fallait adopter la façon de vivre des Chinois. Il s'est laissé pousser les cheveux et il a fait une tresse. Il a mis un calot sur la tête. Il s'est mis une robe chinoise. Du coup, il s'est fondu dans la population. Et il a mangé chinois. Il a appris le mandarin et il a parlé le mandarin avec les autres. Certes, on savait que c'était un étranger. Mais il s'est fait chinois. Il était chinois parmi les Chinois. C'était quasiment un des leurs, et cela les a touchés. Il a adopté ce principe de l'apôtre Paul qu'il avait parfaitement compris. Avec les Juifs, j'ai été juif. Et Paul était juif. Afin de gagner les Juifs, avec ceux qui ont été sans loi, les païens, et j'ai été sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On sait que Paul a revendiqué sa qualité de Romain, et il était Romain, quand il a été fait prisonnier par les Romains. Acte 22. Il a cité les poètes grecs pour se faire comprendre des Grecs à Athènes. Tout à tous afin de les gagner. Selon la personnalité, son vécu, son caractère, son passé, votre interlocuteur sera ou non sensible à votre discours. Dans la mesure où c'est possible, il faut adapter votre parole à la personne qui vous écoute. Quand il m'arrivait, avant de parler à un témoin de Jéhovah, j'utilisais son langage. Pour parler de Dieu, je parlais de Jéhovah, de la fin de toute chose, du royaume. Si je parle à un musulman, je parle d'Issa, qui est Jésus, d'Allah, qui est Dieu. Je n'emploie pas le mot « fils de Dieu », qui est un choc, un anathème pour lui. On ne témoigne pas à un musulman avec une Bible coloriée et annotée. C'est un blasphème. On ne pose pas sa Bible sur sa chaise à côté de soi. Il faut que la parole de Dieu, il considère que la Bible est aussi parole de Dieu, doit être au-dessus de la ceinture. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Chacun sait ce que c'est le patois de Canaan, comme l'un de nos cantiques qui dit « Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. » Alors, les jeunes ne connaissent pas cela. Le sang, c'est rouge, non? Et ça tache. Comment me tremper dans le sang et devenir blanc, totalement incompréhensible? Et c'est quoi aussi cette barbarie? Ayons l'intelligence de ne pas heurter par notre langage mon auditeur. Et ceux qui ne sont pas en particulier initiés. Le langage est un code. Si les gens n'ont pas appris le code, ils ne comprendront rien. C'est à nous d'adopter le code de notre interlocuteur. Ne mangez pas de porc avec un musulman. Ne buvez pas de vin. N'ayez pas une tenue négligée ou décontractée si vous invitez des hommes d'affaires à un concert. Il suffit de pas grand-chose pour passer complètement à côté de la plaque et manquer sa cible par manque de sagesse ou de précision. Quand j'exerçais encore, je recevais fréquemment des lettres de spécialistes qui ne contenaient aucune ponctuation si ce n'est des points. C'était totalement incompréhensible. Pas de virgule, pas de point d'interrogation, pas de point de suspension. C'était souvent illisible. Si je dis par exemple, l'instituteur dit le curé est un imbécile. Qui est l'imbécile et qui le dit? Vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, si je marque des pauses dans mon intonation, alors c'est compréhensible. Si je dis « l'instituteur, dit le curé, est un imbécile », là, c'est le curé qui le dit, et l'instituteur qui est un imbécile. Mais si je dis « l'instituteur dit, le curé est un imbécile », là, c'est l'instituteur qui le dit, et c'est le curé qui est un imbécile. Vous voyez, c'est différent. Pourtant, j'ai dit la même phrase. Mais dans l'écrit, je mets des virgules. Je mets des points. Savoir communiquer est un art qui s'apprend. Nicolas Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Une autre anecdote illustre très bien ce que je dis et qui peut être préjudiciable. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, je l'ai déjà racontée ici, mais elle est un peu marrante. Une amie de la future mariée, ne pouvant se rendre à son mariage, avait envie de trouver un verset biblique sur l'amour qui inspire confiance, qui vraiment quelque chose qui porte, et elle voulait l'envoyer par un télégramme. Alors, c'était une époque pas si lointaine où les télégrammes existaient, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas d'Internet. C'était un autre monde, quoi. Donc, elle trouva le verset de 1 Jean 4, 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, Mais l'amour parfait bannit la crainte. Très beau verset pour un mariage. Et vous savez qu'un télégramme, avant, on se payait au mot. Et plus on mettait de mots, et plus c'était cher. Donc elle a voulu mettre simplement la référence du verset, en se disant, la mariée, quand elle va recevoir le verset, elle va prendre sa Bible, elle va lire le verset. C'est plus simple. Donc elle est allée voir la télégraphiste. Donc là aussi, ça n'existe plus. Et elle a donné seulement la référence du verset, 1 Jean 4,18. La télégraphiste, qui ne connaissait pas la Bible du tout, elle a dit, c'est tout ? Oui, oui, c'est tout. Elle a marqué Jean 4, 18. Et donc la mariée, quand elle reçoit le télégramme, elle s'est empressée de prendre la Bible et de lire Jean 4, 18, et c'est le passage qu'on a vu de la femme samaritaine, où Jésus dit à la femme, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je vous laisse imaginer la tête du mari apprenant par une amie bien intentionnée la vie précédente et volage de sa femme. De quoi rompre le mariage. Alors faisons attention à ce que l'on dit. Les conflits, les différends naissent le plus souvent de quiproquos, doublés souvent d'interprétations. Pourquoi croyez-vous que l'apôtre Jacques dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, si ce n'est pour se donner du temps d'analyser le pourquoi des choses, éviter les malentendus. Après explication, on en arrive souvent à dire « Ah, mais je croyais que, j'avais compris que. » Oui, mais c'est trop tard. Le mal est fait et la querelle a commencé. Proverbe 17 dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. » Et vous savez ce que c'est avec les actualités que l'on voit. Quand une digue se rompt, c'est vraiment l'inondation. Donc, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. On ne peut pas communiquer quand on hausse le ton pour se faire entendre, quand on se dispute. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion, nous dit Proverbe 18. La façon dont on communique un message est importante. La forme du message est aussi importante que le fond. Le fond, c'est ce que l'on dit, c'est le message. Mais la forme, c'est comment on le dit. Si l'émetteur est défectueux, le message sera altéré, voire incompréhensible. Si nous ne sommes pas en phase avec ce que nous disons, le message ne sera pas reçu. Pire, il provoquera le contraire. Je me souviens d'un jour où j'étais au restaurant universitaire, donc quand j'étais étudiant, j'ai vu un homme tenir un stand biblique du GBU. Un étudiant discutait avec lui et lui a demandé « Est-ce que vous êtes heureux ?» Et l'étudiant chrétien a répondu « Oui, je suis heureux. » Mais avec un air si triste que je suis persuadé que l'étudiant en face aurait voulu lui arracher son Jésus. Un jour, j'ai croisé un disciple de la secte des enfants de Dieu. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est une secte libertine et pédophile qui est interdite en France. À l'époque, ce n'était pas interdit, et donc je l'ai croisé. Et il me tend un de ses traités très évocateurs de sexualité en me disant « Je t'aime ». C'était leur façon d'aborder les gens. Vraiment des mots en l'air, programmés pour accrocher, mais vides de sens. Que savait-il vraiment de l'amour ? Don de soi et sacrificiel. De l'amour agapé et non éros. N'ayons pas des mots types, clichés et décalés des réalités. Soyons honnêtes. On parle beaucoup d'empathie aujourd'hui, mot à la mode, c'est-à-dire de disposition à l'écoute, à la compréhension, à la communication. C'est comme se mettre à la place de quelqu'un pour comprendre ses souffrances, ses attentes, ses besoins. Et pour cela, il ne faut pas le juger au préalable, ni user d'artifice pour le séduire, même pour la bonne cause. Ça ne marche pas. Jésus a usé d'empathie avec la femme samaritaine. Il a parlé d'abord de son besoin, avant d'en arriver à sa vie privée, puis de se présenter comme le Messie. Un jour, à l'hôpital, on a fait une expérience, moi je n'ai pas connu, hein, voilà, mais c'est une histoire que j'ai entendue, une expérience qui est très intéressante. Le chef de service a réuni tous ses internes pour leur demander de faire une étude sur un nouveau médicament qui venait de sortir et qui était prometteur dans l'arthrose. Mais ce médicament, comme toujours, doit être testé avec un placebo, en parallèle avec un placebo. Vous savez, le placebo, c'est un faux médicament. Et ce, afin d'agir sur le psychisme plus qu'en réalité. Le placebo agit sur le psychisme. La moitié des internes devait donc distribuer le vrai médicament en étude et l'autre moitié, le placebo. Mais tous les internes devaient tenir absolument le même discours convaincant et faire passer le message comme quoi c'était un médicament qui était prometteur, y compris le placebo, mais sans le dire. Et donc de vanter son efficacité auprès des malades. Après 3 mois, les malades qui avaient reçu le placebo ont été améliorés. Vous allez me dire, c'est normal. Pardon, ont été peu améliorés avec le placebo. Alors que ceux qui avaient reçu le vrai médicament étaient améliorés. Et donc, on peut penser, c'est normal. Sauf que le chef de service a réuni tous les internes à la fin, au bout de 3 mois, et leur a dit, mais en fait, c'était tout des placebos. Il n'y a pas de vrai médicament. Et ce qui était analysé, ce n'était pas les malades, mais les internes et leur capacité de communication. Ça veut dire que les internes qui pensaient avoir un vrai médicament étaient très convaincants parce qu'ils étaient convaincus. Alors que les internes qui savaient détenir un placebo n'étaient pas convaincus et donc ils n'étaient pas convaincants. Et les malades guérissaient ou non en fonction de la conviction de l'interne. Vous voyez ? Comme quoi la communication est importante. Récemment, j'ai vu une émission avec Michel Simès sur le pouvoir de l'esprit sur le corps. Il était question justement de cet effet placebo pour communiquer le sentiment de bien-être. Par exemple, les pilules bleues favorisent le sommeil. C'est étudié, hein ? Les pilules roses sont bonnes pour la dépression. Les noms des médicaments et les conditionnements sont judicieusement choisis pour favoriser le message et donc la guérison. On dépense beaucoup d'argent pour payer des ingénieurs et des chercheurs pour trouver ce qui fera la différence avec les autres laboratoires. Les visiteurs médicaux que nous médecins on reçoit sont formatés pour tenir un discours convaincant à faire passer aux prescripteurs. Et certains rivalisent d'ingéniosité pour se faire comprendre positivement, jusqu'à se rendre sympathique en parlant de pêche, de théâtre, de randonnée, de vacances, de bon vin, qui n'a rien à voir avec le médicament, mais c'est simplement la sympathie. Si le message que l'on veut transmettre est clair en soi, et si on se l'est approprié, si on le vit réellement, si l'on est convaincu, alors il sera crédible. Il ne doit pas y avoir de porte-à-faux ni d'obstacle entre moi et le message. Vous connaissez cette expression, ce que tu parles est si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Pardon, ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Dans ce cas-là, il vaut mieux parfois ne rien dire qu'être soi-même une pierre d'achoppement. Et en attendant de réformer ses voies par la repentance et l'humiliation. Mais si je suis en phase avec le message, alors je dois le transmettre avec conviction et foi. Bien sûr, je dois aussi le connaître, et c'est là le but de la méditation de la parole de Dieu. Elle doit être une nourriture pour me changer d'abord moi, avant de changer les autres. Jean Calvin disait, la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour nous apprendre à babiller, mais pour nous apprendre à réformer nos voies. Pour qu'un message soit entendu, il faut aussi un récepteur. C'est celui à qui est adressé le message. Vous penserez peut-être que là, on n'y peut rien changer. Détrompez-vous. Selon la façon dont vous transmettez le message, il sera entendu ou non par la personne, si vous tenez compte de ce que cette personne est. Selon la façon dont vous procédez, vous inclinerez votre interlocuteur dans un sens ou dans un autre. C'est à vous de vous faire comprendre. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre s'il n'a rien compris. Il y a en effet l'art et la manière de se faire comprendre. Notre fils Benjamin, quand il était à l'école, avait un prof d'histoire et géo qui racontait sa vie pendant 3 quarts d'heure et ensuite il faisait cours pendant 1 quart d'heure. Insupportable. L'année suivante, il a eu un autre prof d'histoire et géo. Il est revenu, le premier cours, il a dit « Ah, c'est le bonheur !» parce qu'il faisait cours d'histoire et géo. C'est ce qu'on appelle être pédagogue. Jésus l'était. Il parlait par image, en faisant appel au quotidien des personnes. Il touchait au cœur, au plus profond des auditeurs. Il parlait avec compassion, circonspection, sans jugement, en dehors des pharisiens qu'il connaissait bien et qui, eux, connaissaient la loi. Il montrait à son interlocuteur qu'il était aussi entendu. De la même manière, quand vous parlez, ne précipitez pas les choses, mais montrez de la sagesse et de la patience. Laissez le Saint-Esprit agir dans l'âme, tout doucement. C'est à vous aussi de tourner un cœur hostile ou opposant en votre faveur par l'attention que vous pouvez manifester. Ne vous irritez pas de ne pas être compris. Ne vous froissez pas de ne pas être entendu. Soyez humble et patient. Communiquer, ça s'apprend et se travaille. Le mot communication contient le mot communion et lui est intimement lié. Communion signifie être uni avec et dans le même, c'est dans le même esprit. Dans l'Église catholique, on parle de prendre la communion, c'est-à-dire l'Eucharistie, moment de partage de l'hostie. Le mot communication signifie être en relation avec, transmettre et faire et partager. Communiquer, c'est en quelque sorte communier, être en relation intime avec les autres. Quelqu'un a dit, la communion est possible lorsque les gens sont honnêtes quant à ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent. Ils partagent leurs blessures, révèlent leurs sentiments, confessent leurs échecs, dévoilent leurs doutes, admettent leurs peurs, reconnaissent leurs faiblesses et savent demander qu'on leur vienne en aide et qu'on prie pour eux. C'est seulement lorsque nous montrons tels que nous sommes, ce que nous sommes et reconnaissant honnêtement ce que nous sommes, que nous vivons et ce que nous vivons, que nous pouvons expérimenter la communication et la communion authentique. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le monde pense que l'intimité, c'est le domaine de l'obscurité. Mais Dieu affirme au contraire qu'elle est du domaine de la lumière. Nous avons tendance à utiliser les ténèbres pour dissimuler nos blessures, nos fautes, nos peurs, nos échecs et nos défauts. Mais dans la lumière, nous dévoilons tout cela au grand jour et acceptons de reconnaître ce que nous sommes vraiment. Bien entendu, l'authenticité nécessite à la fois du courage et de l'humilité. Elle exige de nous que nous fassions face à notre peur d'être exposés, rejetés et à nouveau blessés. Pourquoi quelqu'un prendrait-il un tel risque? Parce que c'est le seul moyen de grandir spirituellement et d'être en bonne santé émotionnelle. La Bible dit, prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Pour terminer, je voudrais vous encourager à travailler votre communication, surtout pour témoigner. Vous devez d'abord être honnête avec vous-même et les autres, reconnaître vos lacunes, vos erreurs, vos faiblesses. Mais vous devez aussi avoir des convictions et ne pas en avoir honte. Vous avez un message à transmettre. Soyez sûr de vos affirmations. Connaissez bien l'Écriture et soyez informé de ce qui se passe dans le monde. N'ayez pas de réponses bateau, toutes faites à l'emporte-pièce, mais des réponses adaptées aux propos tenus, puisées dans le concret. Témoignez de ce que vous vivez, mais ne vous construisez pas une vie idéale, attractive. Ne promettez rien de ce que vous ne sachiez vrai. Parlez des promesses de Dieu et de son amour, mais aussi de sa justice. Soyez patient et persévérant. Il faut souvent du temps avant que la parole ne fasse son effet. Et c'est l'Esprit Saint seul qui convainc. Et puis, on n'a pas toujours les fruits que l'on escompte. Il faut le reconnaître. Et cela ne doit pas nous décourager. Dieu aime les pécheurs et attend toujours que la lumière se fasse dans leur cœur. Bénissez et priez. Amen. Je dirais que ce matin, il y a parmi nous quelques personnes, voire une personne, qui n'a pas la paix en lui-même. C'est le Seigneur qui m'a donné cette parole ce matin, et je voudrais lui dire à cette personne, j'ai payé le prix pour toi de ton péché à la croix, j'ai effacé ta dette, j'ai payé pour tes fautes. Elles sont réparées, elles ont disparu à mes yeux. Viens à moi, mon fardeau est léger et je suis doux et humble de cœur et je te donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner ce repos ce matin. Ne repars pas avec ce fardeau ou ce péché. Viens aux pieds de Jésus ce matin à la croix, dépose ce fardeau, il te donnera son repos. Car le Seigneur est tout-puissant. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Ne reste pas avec ce fardeau. Dépose-le au pied de la croix et je te donnerai ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner, mais que moi je peux te donner, car elle est différente de celle du monde. C'est la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Je te le demande, fais-le ce matin au nom, à mon nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.